Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de pouvoir apporter de la prédication, apporter la parole de Dieu. C'est vrai que j'ai un peu travaillé sur ces textes. C'est vrai que j'ai aussi eu de l'aide de la part des étudiants du GBU Santé avec qui on a fait une étude biblique là-dessus mercredi soir. Donc je leur dis merci au passage pour le rapport, ceux qui sont là. Et puis, il y a des jours où, quand on arrive pour la prédication, on a l'impression que, avec ce qui s'est vécu dans le culte auparavant, tout a déjà été dit. Parce que la prédication de ce matin va parler du renoncement et de suivre Jésus. Mais je crois que, en même temps, ça nous fait quand même toujours du bien de réentendre les choses avec les mots de Jésus, de voir ce que la parole nous dit elle-même. Et c'est ce qu'on va faire maintenant avec l'aide de Dieu. Donc, dans Luc 14, 25 à 35, et je vais lire tout de suite. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ? De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne soit pas capable d'achever, et que tous ceux qui le verront ne se moquent et ne disent « Cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas été capable d'achever. » Ou quel roi, s'il part pour s'engager dans une guerre contre un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il a le pouvoir, avec 10 000 hommes, de marcher à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000. Tandis que l'autre est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient fade, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est utile ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, dans ce texte, on voit que Jésus est suivi par une grande foule qui l'accompagne déjà, qui marche avec lui. Mais Jésus ne fait pas ce qu'on serait peut-être tenté de faire à sa place, c'est-à-dire dire, c'est super, il y a des gens qui m'écoutent. Enfin, on écoute ce que j'ai à dire. Donc, je vais leur expliquer combien c'est super de suivre Jésus, combien c'est bien d'être chrétien, combien tout va bien une fois qu'on connaît Dieu. Et il ne leur demande pas de s'engager tout de suite pour devenir ses disciples en leur disant que tout ira tellement mieux s'ils deviennent chrétiens. Mais au contraire, Jésus leur montre tout ce que ça coûte, tout ce que ça demande d'être un véritable disciple. Il leur montre tout le détachement qui est nécessaire pour se mettre à sa suite. Et il commence par montrer le détachement par rapport à tous les liens familiaux, toutes les solidarités familiales qui étaient tellement importantes dans cette époque où ça définissait à la fois l'identité des gens, où c'était à la fois aussi leur sécurité sociale, leur assurance face aux coups durs d'être insérés dans ce réseau familial. Mais Jésus leur montre que ça fait partie des choses dont il faut se détacher. Alors quand Jésus dit qu'il faut haïr son père, sa mère, sa femme et ses enfants, il y a certainement quelque chose de l'hyperbole, quelque chose d'exagération. Je ne crois pas que Jésus demande d'avoir des sentiments hostiles par rapport à sa famille et de vouloir leur peau et de vouloir que tout se passe le plus mal possible pour eux. Mais alors il y a peut-être une façon de parler un peu hébraïque où dans l'Ancien Testament, des fois, on parle du mari qui aimait une de ses femmes et qui haïssait l'autre, où ça veut en fait dire qu'il y en a une qu'il aimait vraiment profondément et l'autre qu'il aimait moins ou c'était moins ça. Ou peut-être que c'est aussi une exagération pour vraiment qu'on y réfléchisse et vraiment montrer à quel point ça peut être radical. Mais en même temps, quand il y a une famille qui est unie dans son identité par certaines valeurs, par certaines manières de vivre et d'agir, et que tout à coup il y a un de ses membres qui décide de vivre tout autrement, c'est une famille où on est syndicaliste de père en fils, et puis qu'il y a un des fils qui devient avocat et qui milite au Parti libéral, eh bien, ça crée une rupture, ça crée des confrontations. Et dans l'histoire, beaucoup de gens qui sont devenus chrétiens ont été confrontés à une famille qui leur dit « Non, c'est pas possible, tu peux pas devenir chrétien, c'est pas conforme à notre identité familiale. On est musulman de père en fils, on est musulman fidèle. Si tu suis Christ, alors tu fais plus partie de la famille. » Ou ça peut s'être passé de bien d'autres manières quand certains qui naissaient de familles nobles voulaient tout abandonner pour devenir moines, ou quand d'autres qui peut-être avaient une carrière prometteuse devant eux et qui ont décidé plutôt de partir dans un pays, dans le lointain. Il y a plein de circonstances qui ont pu faire qu'une famille n'accepte pas ce qu'un de ses membres veut faire pour suivre le Christ. Et quand une famille dit « c'est lui » ou « nous » et qu'une personne dit « eh bien dans ce cas c'est lui », eh bien la famille perçoit ça à peu près comme si c'était une déclaration de haine, parce que c'est un reniement total des droits que la famille pensait avoir sur la personne. Donc quand Jésus parle de haine, il ne parle pas d'hostilité, mais ce qu'il demande peut être perçu vraiment comme de la haine, de la peur, par exemple de la famille. Et pour nous, je crois que ça peut aussi nous interpeller par rapport à nos valeurs, parce qu'en tant que chrétien, on a tendance à placer la famille très haut dans notre estime, à penser que les valeurs familiales, eh ben, c'est presque la définition des bonnes valeurs chrétiennes. Et là, eh ben, ça ne colle pas entièrement avec ce que Jésus dit. Alors, bien sûr, il y a dans la pratique une dimension de responsabilité qui reste et qui exprime aussi notre engagement chrétien. Par exemple, Paul écrit dans la première épître à Timothée, au chapitre 5, le verset 8, dès que je la retrouve. Donc, ce qu'il écrit à Timothée, c'est que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et surtout de ceux de sa famille, il a renié sa foi et il est pire qu'un infidèle. Donc ce que Jésus dit ne supprime pas les responsabilités qu'on a par rapport à une famille ou à ses dépendants, mais ça nous interdit de faire de notre famille la source de notre valeur, la source de notre identité ou la source de notre sécurité. Si ce qui justifie notre existence sur cette terre, c'est d'être le bon père de famille, c'est d'être le bon fils, etc., il y a un problème et on n'a pas encore renoncé dans la manière dont Jésus nous y appelle. Et puis, alors peut-être aussi que pour nous, on vit dans une époque plus individualiste et la famille est moins importante. Certains, en poussant à l'extrême, disaient « Je ne comprends pas vraiment ce que Jésus dit là. Haïr sa famille, c'est des choses auxquelles les gens arrivent très naturellement. Mais il y a aussi toute cette notion de sécurité et de valeur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, on trouve notre sécurité ailleurs, dans notre salaire, dans notre compte en banque, dans d'autres réseaux sociaux, mais toutes ces choses-là sont concernées au même chef. Et d'ailleurs, Jésus parle aussi de renoncer à tous ses biens. Et là, on peut aussi se poser la question, mais justement, qu'est-ce que ça implique de renoncer à tous ses biens? Est-ce que ça veut dire tout vendre, tout donner à la chaîne du bonheur et puis partir sur les routes? Alors, à l'époque de Jésus, il y en a qui ont réellement fait ça, qui ont réellement tout laissé derrière pour le suivre. Ou dans les Actes des Apôtres, dans la première église, eh ben, certains vendaient tous leurs biens, donnaient tout à l'église, mettaient tout en commun, et puis vivaient en se partageant ensemble les biens de l'église. Donc, c'est des choses qui ont existé, mais il faut bien dire que dans les Épîtres, par exemple, qui nous montrent la vie pratique des églises plus tard, on n'a quand même pas l'impression que c'est ça qui se passe au quotidien. Mais ce qui se passe par contre, c'est un appel à la solidarité, une solidarité radicale où vraiment ben, celui qui a plus de biens, il ne considère pas que c'est pour lui, pour assurer son avenir ou pour son confort, mais il va mettre ses biens au service des autres, au service de ceux qui ont moins et au service de ceux qui manquent. Et ça fait aussi partie des choses ben, auxquelles Jésus appelle de prêter sans espérer en retour, de donner aussi le manteau à celui qui nous demande une chemise, et ainsi de suite. Et si on est attaché à nos biens, si on compte dessus pour notre sécurité, eh ben, on n'arrivera pas à mettre en pratique ce que Jésus demande de ses disciples. Et puis en même temps, ça nous demande aussi où est-ce qu'on met notre sécurité. Et ça, on peut le mettre en parallèle avec ce que Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 6, les versets 24 à 26. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon, ou Dieu et l'argent, si on interprète un tout petit peu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et donc là, Jésus n'est pas non plus en train de dire que forcément tout va aller mal si on choisit de le suivre, mais qu'il faut renoncer aux sécurités qui viennent de ce qu'on possède pour faire confiance à Dieu que l'essentiel, ce qui est vraiment nécessaire, eh bien, il nous le fournira. Et petite note au passage, je crois qu'une des manières dont il peut le fournir, c'est par justement la solidarité que l'Église est appelée à vivre. Et donc, plus on vivra tous le renoncement à être prêts à être solidaires les uns des autres, plus on pourra aussi faire confiance parce qu'on saura que, ouais, et ben que les autres sont aussi là pour être le moyen par lequel Dieu pourvoit. Et puis Jésus parle aussi de prendre sa croix et de le suivre. Alors au moment où Jésus tient ses propos, il est déjà en route vers Jérusalem. Il a déjà affirmé sa détermination pour se diriger vers Jérusalem, où il sait très bien ce qu'il attend, où il sait qu'il marche vers la crucifixion. Donc, il y a un rapport avec ce qu'il fait sur la croix. Il y a une idée de dire, ben, pour suivre Jésus, il faut le suivre dans tout ce qu'il fait. Mais il y a aussi le côté où à l'époque, les seules personnes qui portent une croix, c'est des condamnés en marche vers leur exécution. Et c'est donc des gens qui sont en voie vers un châtiment humiliant, et puis qu'on voit marcher au milieu de la foule avec leur croix, c'est aussi un signe d'humiliation, parce que la croix, c'était vraiment un châtiment très humiliant, très infamant pour des coupables très honteux. Et donc là, c'est un peu comme si Jésus disait, « Eh bien, pour me suivre, il faut déjà vous attacher une corde de pendu autour du cou. Il faut prendre une guillotine sur votre dos, parce qu'en me suivant, eh bien, vous pouvez déjà vous considérer comme des condamnés à mort, parce qu'il se peut que ça vous mène jusque-là. » Et puis, votre réputation publique, eh ben, vous pouvez aussi l'oublier parce que à certains moments, il se peut que ça vous amène à être vu comme des coupables, comme des criminels de la pire espèce. Et en vérité, beaucoup l'ont vécu d'être rejetés complètement de la société, voire tués pour avoir voulu suivre le Christ. Et pour inviter à prendre au sérieux tout ce qu'il présente là, Jésus raconte encore deux histoires. L'histoire de l'homme qui veut bâtir une tour et puis qui commence et au milieu se rend compte qu'il n'a pas de quoi finir. Et tout le monde se moque de cette personne qui a voulu se mettre au travail sans même se demander s'il était capable d'arriver au bout de ce qui commençait. Il parle aussi du roi qui part en guerre et qui forcément se demande avant la bataille s'il a une chance de s'en sortir. Et si ce n'est pas le cas, qu'il va plutôt renoncer à la guerre et essayer de trouver une autre manière de se tirer d'affaire. Et donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que, eh ben, avant de se mettre à la suite de Jésus, eh ben, il faut vraiment se demander si on est prêt à perdre tout ce que ça peut nous coûter. Si on est prêt à perdre notre vie, à être rejeté de notre propre famille, à être pauvre parmi les pauvres. Et il dit que si on n'est pas prêt à tout ça, eh ben, il vaut peut-être mieux ne pas s'engager à être disciple plutôt que d'être comme celui qui part en expédition en n'ayant pas pris assez de nourriture et qui fait demi-tour parce qu'il n'a pas de quoi tenir, ou d'être comme celui qui commence à construire sa villa et qui ne va jamais plus loin que de poser les murs du premier étage parce qu'il n'a plus les moyens. Puis, on peut se demander pourquoi Jésus a une telle radicalité, pourquoi est-ce qu'il en demande autant? Rien côté, c'est parce que les difficultés sont réelles et que ceux qui veulent le suivre s'exposent réellement à tout cela. Mais je crois qu'il y a aussi un côté où c'est parce qu'il veut tout transformer dans notre existence. Parce qu'en tant qu'être humain, pécheur et séparé de Dieu, eh ben, il y a tout qui cloche, il y a tout qui ne va pas et tout qui peut avoir besoin de changer. Et s'il y a des choses où on dit que Jésus n'a pas le droit d'y toucher, que Dieu n'a pas le droit de le changer, eh bien, c'est tout ça des choses où Dieu ne pourra pas faire son œuvre en nous, il ne pourra pas nous transformer pour faire de nous ses enfants, pour faire de nous son image sur cette terre. Et donc, si on le suit avec des réserves, il y a des choses qui ne pourront pas être rétablies en nous. C'est comme si on doit subir une opération, qu'on doit avoir une prothèse de hanche ou qu'on doit se faire opérer de la cataracte, donc se faire enlever un vieux cristallin qui ne marche pas et mettre un cristallin qui va fonctionner. Et ben, si on dit non, je ne peux pas me séparer de mon cristallin, j'en ai besoin, non, ça, on ne peut pas y toucher, et ben, l'opération n'aura jamais lieu et la transformation non plus. Et donc, il y a besoin, pour suivre vraiment Jésus, d'être prêt à ce que tout change et de ne pas avoir des réserves sur ce qu'il peut toucher ou pas. Puis, par rapport à cette radicalité que Jésus demande, je trouve intéressant de regarder un petit peu la parabole précédente, juste avant dans nos Bibles, où il parle d'un homme qui invite pour un grand repas, et puis tous les premiers invités disent « Désolé, je ne peux pas venir parce que j'ai acheté un nouveau champ et il faut que j'aille le voir. » Ou « Je ne peux pas venir, j'ai acheté 5 paires de bœufs, il faut que je les essaye. Je ne peux pas venir parce que je viens de me marier. » Et là, l'homme qui invite pour le repas dit alors à ses serviteurs, « Bon alors, allez sur les places, trouvez des boiteux, trouvez des estropiés, trouvez des mendiants et faites-les entrer. » Puis après, quand ça ne suffit encore pas pour remplir la salle, il dit, « Allez sur les chemins, le long des haies, prenez tous ceux que vous trouvez et puis faites-les entrer pour qu'ils participent à mon repas. Parce que les premiers invités, eux, c'est sûr que jamais ils y toucheront. » Donc cette parabole précédente, ben, y a un côté où elle nous montre une invitation qui est large, qui concerne vraiment tout le monde, où tout le monde est invité à entrer dans ce festin, et où des estropiés et des aveugles aussi. Donc on voit bien que Jésus n'est pas en train de chercher l'élite de la nation, tous les meilleurs pour faire son équipe de professionnels, mais qu'il y a vraiment une invitation pressante à entrer dans tout ce qu'il a à offrir. Mais en même temps, si on regarde les excuses des premiers invités, eh ben, c'est finalement toutes des choses auxquelles Jésus dit « il vous faut avoir renoncé ». C'est un nouveau champ, c'est une nouvelle épouse. Alors, quand il parle de 5 paires de bœufs, c'est vrai qu'on ne se figure pas tout à fait ce que c'est, mais je pense que c'est un petit peu comme si on lui répondait « Ah non, mais je viens d'acheter une nouvelle voiture, il faut que je la rôde », ou bien j'ai une nouvelle moto 800 chevaux, et puis il faut vraiment que j'aille faire monter un petit peu les tours pour profiter. Toutes ces personnes qui étaient invitées, finalement, passent à côté de l'invitation parce qu'il y a des choses qu'elles ont jugées préférables au fait d'entrer dans le royaume de Dieu, au fait de devenir des disciples. Donc finalement, ce que ça veut dire, ce que ça montre, c'est que être disciple de Jésus, c'est possible pour tous. Des aveugles, des estropiés, des mendiants, ça lui va très bien. Mais il faut être prêt à renoncer à tout. Et peut-être même finalement que c'est plus facile pour les aveugles, les mendiants qu'on ramasse sur la place et qui laissent, entre guillemets, rien derrière, que pour tous ceux qui sont dans une situation assez confortable, où leur vie va bien, et où suivre Jésus, ça va leur coûter quelque chose. Et ça nous interroge aussi, nous qui vivons dans des pays assez prospères où globalement les choses vont bien, est-ce qu'on risque d'être parmi ces premiers invités qui, venant à l'église de dimanche en dimanche, sont les premiers à entendre l'invitation, mais qui finalement n'entrent pas vraiment dedans parce qu'il y a plein de choses autres qui nous semblent intéressantes et qu'on préfère à la vie de disciples que Jésus propose. Et puis finalement, ce passage finit avec l'image du sel, le sel qui est une bonne chose, qui est utile, mais que si il devient fade, eh ben il remplit plus sa fonction. Et puis vu que sa fonction c'était de donner du goût, s'il donne pas de goût, eh ben rien d'autre va pouvoir lui rendre son goût. Et il sert vraiment plus à rien. Ça sert même pas à fertiliser le sol. On peut même pas le mettre sur le tas de fumier pour que ça devienne de l'engrais. Eh ben on le jette dehors parce qu'il sert vraiment à plus rien du tout. Et je crois que c'est aussi un avertissement pour nous en tant qu'Église, c'est de dire si on n'est pas prêt à vivre tout ce que Jésus demande en tant qu'engagement de disciple, eh ben, on ne va pas devenir du sel, on ne va pas devenir quelque chose de suffisamment particulier pour montrer quelque chose de différent dans ce monde-là. Si on est prêt à renoncer à rien de ce que la société actuelle nous offre, eh ben, on sera entièrement semblable à cette société-là, et donc on n'aura plus rien de particulier à apporter, et donc on servira à rien du tout d'être une église. On pourrait être un club de bridge, et ça ne changerait pas grand-chose. Et donc, il faut vraiment prendre au sérieux cet engagement à suivre Jésus. Alors après, je crois que souvent en tant que chrétien, il y a tous un moment où on s'est dit « Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, toute ma vie est à toi. Oui, je m'engage. » Mais je crois qu'après, petit à petit, au cours de la vie, on se rend compte que ce premier engagement qui était sincère, c'était encore un peu un engagement sur le papier, un engagement de principe. Mais les circonstances de la vie, petit à petit, nous montrent ce que c'est de renoncer, nous montre quelles sont les choses qui finalement se mettent en chemin, se mettent en travers de notre route de disciple. Et donc, on a besoin, au cours de nos vies, de se reposer la question, finalement, face au concret de ce que ça implique, est-ce que je suis vraiment encore prêt à renoncer à tout? Est-ce que je suis encore fidèle à ce premier engagement? Ou bien est-ce que, petit à petit, je me suis mis à être une de ces personnes qui suivent Jésus dans la foule, un peu par curiosité, un peu pour voir ce qu'il a à dire, mais sans vraiment être prêt à m'engager à sa suite. Et je crois que c'est vraiment des choses qui nous concernent tous et qu'on a vraiment tous besoin de se reposer la question. Et on voit toujours dans nos vies qu'il y a des moments où on réagit comme des gens qui n'ont pas tellement renoncé aux choses, qui estiment encore y avoir droit, qui estiment encore en avoir besoin. Et je ne pense pas qu'il y en ait qui soient tellement meilleurs que d'autres parmi nous à ce sujet. C'est vraiment des choses à se remettre constamment, quotidiennement en question et à ne pas se laisser un peu endormir. Et cela étant dit, ça vaut aussi vraiment la peine parce que vraiment Jésus veut nous transformer pour faire ce qui est le meilleur pour nous. Et donc ce n'est pas non plus souffrir pour le plaisir de souffrir, mais c'est pour un objectif, pour être rendu semblable à l'image du Fils de Dieu venu sur terre. Et donc c'est aussi vraiment parce que ça en vaut la peine que ça vaut la peine de se poser et la question si on a les moyens d'aller au bout. Alors que ça nous accompagne dans la suite de notre semaine, dans la suite de nos vies, de savoir qu'on est vraiment à la suite de Jésus et que ça en vaut le coup.